Dans la forêt, une histoire culturelle. Le podcast de l'exposition du même nom à écouter dans l'exposition ou en se déplaçant. Dans cet épisode, il est question de la situation des forêts dans le monde.
Forests are sort of the lungs of our planet. They're the life support system of Earth. And as we start to destroy these natural forests, we're actually really sort of destroying what we depend on for life.
Nous parlons de la situation des forêts dans le monde et ce qui peut être fait pour non seulement préserver les forêts, mais aussi pour les faire croître de près d'un milliard d'hectares. Les questions ont été posées par Christophe Keller, les explications de Daniel Maynard, qui a obtenu son doctorat à l'Université de Chicago et travaille à Crowther Lab à l'EPF de Zurich.
Yeah, my name is Dr. Daniel Maynard. I'm a lead scientist in the Crowther Lab.
Je m'appelle Daniel Maynard. Je suis chercheur principal au Crowther Lab de l'EPF de Zurich. J'étudie l'écologie forestière en général, c'est-à-dire les interactions entre les arbres, les plantes, les animaux et les microbes qui vivent dans le sol. J'étudie le réseau complexe d'interactions pour essayer de comprendre comment les forêts peuvent présenter une si grande diversité et comment nous pouvons maintenir des forêts saines à l'avenir.
Into the forest with your science, Daniel Maynard.
Daniel Maynard, vous allez dans la forêt en tant que scientifique, mais est-ce que vous vous promenez aussi dans les forêts pendant vos loisirs?
Definitely. I mean, my interest in forest ecology started in my childhood.
Tout à fait. Je peux dire que mon intérêt pour l'écologie forestière a commencé dans mon enfance. J'ai grandi sur la côte est des États-Unis, juste au sud de Boston. Derrière ma maison, il y avait une petite réserve naturelle forestière. Et cela a vraiment joué un rôle décisif dans mon enfance. Vous savez, on passait presque tout notre temps libre dans les bois près de chez moi. Et c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi jusqu'à ce jour et qui a influencé une grande partie de ma recherche. Y a-t-il eu un moment où vous aviez vraiment l'idée de rester sur le thème de la forêt et de continuer à vous y consacrer sur le plan professionnel?
The strongest moment was I did a master's degree in natural resources.
Le moment le plus fort a probablement été le suivant. J'ai obtenu une maîtrise en ressources naturelles et j'ai passé deux étés à faire un inventaire forestier. En faisant cela, vous allez dans la forêt et vous prenez des mesures très détaillées, donc c'était un travail impressionnant. Le travail consiste en quelque sorte à sortir, à vous promener dans la forêt, et cette sorte de mélange qui consiste à être dans la forêt et essayer de faire quelque chose qui informe le grand public et qui a à voir avec la santé humaine et le bien-être humain, c'est vraiment satisfaisant. Un lieu de travail satisfaisant, mais le problème sur lequel vous travaillez à l'échelle mondiale n'est pas seulement tellement satisfaisant, si j'ose dire. Car nous voyons bien que les forêts se trouvent dans une situation vraiment difficile, et ceci au moment où nous en avons le plus besoin. Alors Daniel, pourriez-vous nous donner un aperçu global de la situation des forêts? Où en sommes-nous? Au niveau mondial, les forêts sont confrontées à une série de menaces. Ainsi, dans le monde entier, nous constatons une déforestation massive due à une exploitation des ressources naturelles. Cela peut varier d'un pays à l'autre, cela dépend des politiques locales des gouvernements. Mais en général, les forêts sont le poumon de notre planète. Elles sont le système de soutien de la vie sur Terre. Et lorsque nous commençons à en détruire ces forêts naturelles, nous détruisons en fait ce dont nous dépendons pour vivre.
Not a beautiful picture. So,
pas vraiment une belle image. Lorsque vous regardez la carte du monde, où la situation est-elle la plus grave à votre avis?
Well, certainly, in parts of the tropics, we see probably the most rapid deforestation.
And some of this is. Eh bien, certainement, dans certaines parties des tropiques, nous voyons probablement la déforestation la plus rapide. Et une partie de celle-ci est certainement le résultat d'une véritable exploitation, comme par exemple la coupe à blanc pour les plantations de palmiers à huile ou l'exploitation minière à ciel ouvert. Mais en même temps, il est important de garder à l'esprit que globalement, la déforestation est aussi le résultat d'intentions honnêtes. Les gens essayent de trouver les meilleures conditions de vie, d'améliorer leurs moyens de subsistance. Les villes cherchent à améliorer la production agricole, mais elles cherchent à subvenir aux besoins d'une population croissante, et cela crée de vrais défis. La reforestation et la protection des forêts constituent un défi local et il s'agit autant de relever les défis sociaux et des défis écologiques. Ainsi, Lorsque nous examinons l'état global de la déforestation ou de la santé de la forêt, il s'agit d'essayer de comprendre ces multiples défis, de savoir pourquoi les gens abattent les forêts et comment nous pouvons travailler avec les populations locales pour y remédier.
That's exactly the issue you are working on at the Crowther Lab at the ETH Zurich. It is not just about trees and not just about...
C'est exactement la question sur laquelle vous travaillez au Crowther Lab à l'EPF de Zurich. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres ou de créer des forêts, mais également de concevoir des écosystèmes entiers. Daniel, pouvez-vous nous dire pourquoi ? Quel est le lien entre les écosystèmes et les forêts ?
Yeah, so to your point, a forest is, you can think of it like a city, right? It's not just trees, and trees aren't the most notable feature of a forest, and that's what defines a forest.
But pour répondre à votre question, une forêt peut être vue comme une ville. C'est complexe. Il n'y a pas que des arbres, même si les arbres sont la caractéristique la plus visible d'une forêt. Mais les forêts reposent sur ces interactions vraiment complexes et magnifiques entre les plantes, les animaux, les bactéries et les champignons dans le sol. Et nous avons tendance à penser que les arbres ou les plantes sont en compétition les uns avec les autres. Alors, il est vrai que les animaux se mangent entre eux, les insectes mangent les feuilles. Il existe effectivement ce type de compétition, mais toutes ces espèces dépendent véritablement les unes des autres comme dans un réseau. Et si vous commencez à supprimer des espèces dans cet écosystème, c'est un peu comme si vous supprimiez un maillon important d'un réseau. Vous voyez, cet écosystème s'effondre. On peut penser que c'est un peu comme si tous les habitants d'une maison ou d'un immeuble devenaient soudainement vivre dans un seul appartement. Et c'est un peu ce que nous faisons en fragmentant et en détruisant les écosystèmes. Nous forçons toutes ces espèces à vivre dans des habitats de plus en plus réduits. Et tout comme vous ne voudriez pas regrouper tous les habitants de votre immeuble dans votre appartement, ces espèces ne peuvent pas vivre de cette façon non plus. Et donc nous commençons à perdre des espèces et ce réseau complexe d'interactions commence à s'effondrer.
So focusing on the discussion about climate change, just focusing on...
Donc dans le débat autour du changement climatique, se concentrer uniquement sur les arbres et dire que planter des arbres sauverait le climat, ce ne serait pas la solution si je comprends bien.
Exactly, and this is a really important point. And to really address climate change,
et c'est un point très important. Pour vraiment lutter contre le changement climatique, la première chose à faire est de réduire les émissions. Il n'y a pas d'autre solution, et cela doit être fait rapidement et radicalement, parce que aucun effort de conservation ou de restauration ne peut être compensé par l'augmentation des émissions de carbone. Alors, cela dit, les forêts jouent toujours un rôle essentiel dans le changement climatique. Elles sont, de par leur nature, très efficaces pour absorber le carbone présent dans l'atmosphère. Lorsque vous regardez un arbre, 50% de ce que vous voyez, c'est du carbone. Mais les arbres ne peuvent absorber le carbone que s'ils sont en bonne santé, s'ils sont entourés d'une grande biodiversité. Et lorsque nous parlons de la restauration, nous devrions d'abord nous concentrer sur la création d'un écosystème sain, d'une forêt saine, ce qui nous permettra dans un deuxième temps de tirer profit de la capture de carbone. Cela ne nous aide pas si nous continuons à émettre du carbone dans l'atmosphère. La reforestation est donc certainement un outil important, mais d'abord nous devons mettre fin aux dégâts que nous causons à l'atmosphère. Ensuite, nous pourrons commencer à les réparer.
Start the repair, that means restoration, and that is one of the main issues also of your project at Crowther.
Commencer à réparer. Donc la restauration, et c'est là une des questions principales, également pour vos projets à Crowther Lab. Alors, dites-moi, Daniel, est-ce que cette restauration est faisable ? Est-elle possible ? Et quels sont les outils que vous utilisez pour restaurer les forêts une fois que le dommage est fait ?
So, restoration is a very sort of context dependent, a local challenge. And
la restauration est en quelque sorte un défi local. Alors, dépendant du contexte, et bien entendu, la plantation des arbres joue un rôle fondamental dans ce domaine. Je veux dire que beaucoup d'efforts de restauration utilisent la plantation des arbres, mais qu'il est également important de penser que la première chose à faire ou à laquelle nous devrions prêter attention, est probablement la protection et la conservation des écosystèmes existants. Il est évidemment beaucoup plus facile de protéger quelque chose qui est déjà là plutôt que d'essayer de le reconstruire. Nous devrions donc, dans un premier temps, nous concentrer sur la protection des écosystèmes naturels, des forêts en régénération. Les forêts sont excellentes pour construire d'autres forêts. Elles se portaient très bien avant l'arrivée de l'homme, et une grande partie de la restauration consiste simplement à arrêter les dégâts que nous causons à ces forêts. Et donc, si nous pouvons obtenir de meilleures lois de protection, je pense que c'est la première étape vers une sorte d'effort de restauration globale. Et quelle serait la première étape à accomplir lorsque l'on souhaite restaurer une forêt ?
I would say there's a couple. One is, first off, understanding the social challenges. So local governance, trying to understand what you're doing.
Je dirais qu'il y en a beaucoup. La première étape consiste à comprendre les défis sociaux, la gouvernance locale, et à essayer de comprendre ce à quoi vous avez affaire et ce que les gens attendent de cette forêt et ce à quoi ils accordent de la valeur. Ensuite, il faut comprendre l'écologie locale, ce à quoi ressemble une forêt naturelle saine et riche en biodiversité. Et enfin, l'étape finale consiste à se demander comment y parvenir. Et c'est là que l'on fait appel à des experts, des gardes forestiers, des gestionnaires fonciers locaux. Il peut souvent être difficile de construire une forêt comme on le souhaite. Parfois, cela implique la plantation d'arbres, mais dans de nombreuses régions, cela implique la régénération naturelle. Un seul arbre peut produire des dizaines de milliers de graines, bien plus qu'une seule personne ne pourrait jamais en planter. Il s'agit donc de travailler avec ces différents outils. Parfois, vous faites quelques plantations, puis vous revenez quelques années plus tard et faites d'autres plantations. Voilà. Il existe un grand nombre de stratégies différentes pour essayer d'aider les forêts à se régénérer et peut-être à traverser cette période, en particulier si elles ont été dégradées ou si la qualité du sol est très mauvaise. Il faut aider donc la forêt à construire une partie de cette infrastructure de base qui peut ensuite soutenir une forêt saine.
So that's one of the principles of Crowther Lab to say.
C'est l'un des principes du Crowther Lab, dire que c'est possible. En 2019, vous avez présenté une étude révolutionnaire selon laquelle 0,9 milliard d'hectares de terre dans le monde pourraient être reboisés. C'est à peu près la taille des États-Unis d'Amérique, et ces arbres pourraient finalement capturer un tiers des émissions de carbone d'origine humaine, en plus de ce que les océans capturent déjà. Cela semble donc être une solution fantastique.
Yeah, this is one of the real challenges of communication like this. So again, first off, there's no ability to offset continued.
Oui, mais c'est là un des vrais défis de la communication. Encore une fois, tout d'abord, il n'y a aucune possibilité de compenser les émissions continues. Si nous continuons à produire plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, aucune restauration ou plantation d'arbres ne pourra résoudre le problème. Les arbres ne sont pas une solution miracle au changement climatique, mais ils jouent un rôle essentiel et les forêts naturelles saines et intactes sont indispensables pour protéger l'écosystème contre des phénomènes tels que les espèces envahissantes, les événements climatiques extrêmes et les incendies de forêt. Ainsi, même si la plantation d'arbres en soi ne nous aidera pas à résoudre le problème du changement climatique, même face à cette dernière, elle jouerait un rôle essentiel en nous aidant à avoir des communautés plus saines, des écosystèmes plus sains à l'avenir.
0,9
milliards d'hectares de terre. D'où viennent ces 0,9 milliards d'hectares de terre?
This is a great question. I think one thing to keep in mind is that it's unlikely we could ever physically go and.
C'est une excellente question. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il est peu probable que nous puissions un jour planter physiquement, vous savez, un trillion d'arbres. C'est presque impossible avec la technologie actuelle. Et il est également important de réaliser que beaucoup de ces zones que nous pourrions reformer ont encore des forêts. Elles ne sont simplement pas à pleine capacité. Et c'est ce que nous appelons des terres dégradées. Il y a encore des forêts, il faut simplement les conserver, les protéger et les gérer un peu mieux pour qu'elles puissent accueillir beaucoup plus d'arbres plutôt que de se demander comment pouvons-nous planter moins de 9 milliards d'hectares. La question est de savoir comment restaurer l'écosystème pour qu'il régénère naturellement un trillion d'arbres. Ce que nous pouvons absolument faire. Et cela implique à nouveau la protection, la conservation, la gestion sélective et dans certains endroits, certainement, la plantation d'arbres et la véritable restauration des zones. Mais il est également très important de réaliser que la forêt ne doit pas être présente partout. Si nous pensons à la Suisse, elle présente une étonnante diversité d'écosystèmes. Nous avons des forêts, des prairies, des marais, des écosystèmes aquatiques, des magnifiques prairies alpines. Et la dernière chose que vous voulez faire est de planter un arbre dans ces zones. Et c'est pourquoi la restauration doit être faite très soigneusement et avec des experts. Les experts locaux ont la connaissance locale de ce qui doit être fait dans ces différentes régions. Les forêts sont donc également affectées par les points de basculement. Est-il encore possible aujourd'hui d'éviter que ces points de basculement ne se produisent?
That's a really challenging question. Unfortunately, some of the latest UN climate projections suggest that many of the global tipping points.
C'est une question très difficile. Malheureusement, certaines des dernières projections climatiques de l'ONU suggèrent que de nombreux points de basculement mondiaux sont très proches et qu'au niveau d'émissions actuelles, nous risquons de franchir un grand nombre de ces points de basculement, ce qui entraînera un nouveau climat instable sur la planète.
Mais encore une fois, si nous revenons à ce que les forêts peuvent fournir, même dans ce contexte, nous voyons que les forêts fournissent une grande valeur locale et que les forêts, comme je l'ai dit, sont essentielles pour protéger les communautés et les écosystèmes contre les événements météorologiques extrêmes qui, selon nos prévisions, deviendront plus fréquentes avec le changement climatique. La création des forêts saines devrait donc être une priorité, indépendamment du changement climatique. Et c'est quelque chose que nous devrions faire et que nous ferions, espérons-le, même s'il n'y a pas de changement climatique. La biodiversité est un aspect essentiel de la santé globale, des poumons globaux de notre planète grâce à ces écosystèmes forestiers. Donc d'une part, nous devrions certainement nous concentrer sur les forêts pour aider à atténuer et à ralentir certains de ces points de basculement, mais nous ne devons pas non plus lever les bras au ciel et dire « maintenant, nous pouvons aller dans les forêts autant que nous le voulons parce que nous avons dépassé ces points de basculement ». Et en particulier lorsque nous regardons des choses comme l'exploitation des ressources locales, comme la plantation de palmiers à huile et que l'on coupe à blanc d'énormes quantités de forêts dans les régions tropicales, ce ne sont pas les communautés locales qui choisissent de le faire. Je pense donc que la véritable priorité pour ces points de basculement locaux est d'essayer de trouver des moyens de protéger ce que les populations locales apprécient dans ces écosystèmes, et nous pouvons certainement le faire. Il s'agit de trouver de meilleures solutions, comme les solutions agroforestières qui permettent de gérer simultanément les utilisations multiples des systèmes forestiers et agricoles.
So many people who ask themselves, what can I do?
Tant de gens se demandent ce qu'ils peuvent faire. Ils reçoivent ces messages de sociétés internationales, de sociétés transnationales, disant aux consommateurs, nous allons planter ces millions d'arbres en compensation de nos émissions de CO2. Est-ce une solution, Daniel?
I would say absolutely not. Certainly, involvement of governments and large corporations.
Alors, il est certain que l'implication des gouvernements et des grandes entreprises est et sera essentielle dans la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernements s'impliquent pour que les choses changent, mais aucune quantité de reforestation ou de conservation ne peut compenser les émissions continues de dioxyde de carbone. C'est souvent ce que nous appelons l'éco-blanchissement. C'est-à-dire que les entreprises ou les gouvernements font quelque chose qui semble être bon pour l'environnement, comme la restauration ou la plantation d'arbres, mais derrière notre dos, ils procèdent à la déforestation importante, à une exploitation minière à ciel ouvert ou une coupe à blanc des forêts. Et ce n'est vraiment pas une solution du tout. Je dirais même que c'est pire que si elles ne faisaient rien du tout, car cela suggère qu'elles font quelque chose pour aider alors que ce n'est pas le cas. Ainsi, une véritable implication responsable doit prendre en compte tout ce que fait une entreprise, tout ce que fait un gouvernement, et considérer l'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir ou de savoir s'ils font de la restauration, mais s'ils le font bien. Si vous vous contentez de planter une monoculture, le même arbre, et des rangées d'une seule espèce, ce n'est pas une solution. Elle peut absorber du carbone très rapidement, mais ces forêts sont sujettes aux feux de forêt, aux espèces invasives, et ce n'est pas une solution solide au changement climatique. Nous devons nous concentrer sur la création de forêts diversifiées et saines qui, par ricochet, absorberont du carbone. Plus elles seront diversifiées, et plus elles absorberont, et plus elles stockeront du carbone.
Thank you, Daniel.
Thank you. It was great talking with you. I was happy to be here.
Dans la forêt, une histoire culturelle. Dans cet épisode, il a été question de la restauration des forêts avec le chercheur en écosystème Daniel Maynard. Il travaille à Crowther Lab, à l'ETH Zurich. Les questions ont été posées par Christophe Keller. La traduction a été lue par Ziad Elmaï. Ce podcast peut être écouté dans l'exposition et en dehors, sur Spotify, Apple Podcasts et partout où il y a de bons podcasts, sur le site web du Musée National Suisse. Le podcast Dans la forêt, une histoire culturelle est une production de Podcast Lab, www.podcastlab.ch.